VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 31 août 2016. Au sommaire ce soir.
Tension au Gabon où le président sortant Ali Bongo a été réélu d'après les résultats provisoires proclamés ce mercredi.
Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%.
Notre envoyé spécial Idriss Fall fera le point de Libreville.
Notre correspondant au Gabon prend aussi le pouls de la situation.
Analyse, commentaire dans un segment spécial de notre journal.
Grève au Zimbabwe, plusieurs dizaines de manifestants anti-Mugabe ont été inculpés.
Pas d'accord de cesser le feu avec les Kurdes de Syrie. Ankara a prononcé le démenti quelques heures seulement après l'annonce d'une trêve dans les médias.
Et présidentielle américaine, Donald Trump effectue une visite surprise au Mexique.
Bien sûr, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Bongo Ondimba Ali, 177 722 voix, soit 49,80%. Ping Zhang, 172 128 voix, soit 48,23%. Est élu Bongo Ondimba Ali.
Le ministre de l'Intérieur du Gabon, Pacome Mwele Boubia, avait à peine annoncé les résultats provisoires officiels du scrutin présidentiel du 27 août dernier que les quartiers proches de l'opposition se sont enflammés. Pour une couverture intégrale de l'actualité au Gabon, d'abord, on retrouve notre envoyé spécial Idriss Fall.
Bonsoir Chérubin, bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Donc lorsqu'on s'est parlé il y a à peine une heure, les manifestations avaient commencé au quartier Charbonne, ce qui est le siège du quartier général de Jinping, et c'est là-bas même où il habite. Maintenant ça s'est propagé, c'est-à-dire l'ancien Sobraga, la route nationale vers Lambaréné et même à Port-Gentil, la ville rebelle. Les jeunes sont dehors, érigent des barricades, ont brûlé des battues. Et la police est en train d'essayer de mater ces révoltes plus ou moins populaires. Et comme vous l'aviez dit, c'est parti de l'annonce des résultats qui donne à Ali Bongo Ondimba un peu plus de 49% et à M. Jinping 48%, quelque chose comme ça. Et peu avant l'annonce de ces résultats, l'opposition avait déjà claqué la porte parce que en fait le blocage avait porté sur le Haut Togoué, qui est la région natale de M. Ali Bongo. Apparemment, il aurait fait près de 99% et presque tous les inscrits dans ces régions ont pu participer au vote. Donc le vice-président de la CENAP a démissionné, mais il promet quand même de saisir la Cour constitutionnelle avec tous les résultats qu'ils ont. Apparemment, Jinping a remporté beaucoup de provinces sur les 9 et donc on ne sait pas ce que demain sera fait. En tout cas, la nuit sera extrêmement longue avec donc toutes ces manifestations qui se poursuivent à Libreville. Tout est fermé, même les stations d'essence sont fermées, elles sont déjà gardées par les forces de l'ordre, craignant que des gens viennent s'approvisionner pour faire des cocktails Molotov. Donc la situation n'est plus électrique, mais elle est devenue explosive à Libreville.
Y a-t-il des morts ou des blessés?
Pour le moment, c'est trop tôt pour faire un quelconque bilan. Je pense que ça, on le saura. Dès demain, on aura les langues qui vont se délier, mais très certainement, il y en aura, parce que l'armée qui était déployée depuis vendredi, il y avait les soldats étaient armés avec des mitrailleuses et le tiré par balles, il y avait des camionnettes surmontées de mitrailleuses, il y avait des camions à eau, donc on craint que peut-être le bilan, on le saura quand même, peut-être d'ici la fin de la soirée ou bien demain.
Merci Idriss.
Merci.
Idriss Fall.
Le camp de Jinping a rejeté la réélection du président Ali Bongo Ondimba et accuse le pouvoir de fraude. Il exige la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants criant « Ali doit partir » ont éclaté juste à l'annonce de la victoire du président sortant. Eric Manirakiza a joint Armand Ngo, un partisan de Jinping.
Nous avons déjà la réaction de la population gabonaise qui a donné un certain résultat que nous connaissons, c'est-à-dire que M. Ali Bongo a été battu par les urnes. Alors nous sommes avec notre population, avec la population gabonaise qui ne reconnaît pas les résultats qui ont été donnés par la Sénat et le ministère de l'Intérieur. Donc nous allons protester jusqu'au bout. Nous sommes là sur le terrain avec la population gabonaise.
Jusqu'au bout, qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a des observateurs internationaux. C'est nous qui étions sur place, des observateurs américains, des observateurs européens. Ils ont suivi tout ce processus et nous n'allons pas laisser, c'est pas ça. Ces résultats ont été, les résultats de la province du Haut-Ogooué ont été donnés globalement. Alors nous aimerions que les résultats soient donnés bureau de vote par bureau de vote, ce qui fera ressortir l'ampleur de la fraude qui a été faite par les partisans de M. Ali Bongo, c'est-à-dire le pouvoir en place, le ministère de l'Intérieur et la Sénat. Déjà le monde entier le sait, que c'est de la triche, qu'il y avait déjà un rapport de 60 000 électeurs. Xi Jinping était déjà à 60 000 électeurs de plus que M. Ali Bongo. C'est une seule province. Une seule province, voyez-vous, avec une participation de 99,96%. Vous vous rendez compte, ça, c'est jamais vu dans le monde, ça. Monsieur, ça ne peut pas continuer, on en a marre. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Un leader de l'opposition qui gagne les élections, et c'est toujours la famille Bongo qui reprend le pouvoir. Vous voyez, ça ne va pas, ça ne peut pas durer comme ça, monsieur, on en a marre.
Voilà, c'était Armand Ngo à Bruxelles.
Le porte-parole du gouvernement de son côté, Alain Billier Nbinzier, explique que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote.
Monsieur, les Gabonais viennent de voter pour élire un nouveau président et élire pour un nouveau mandat. Ils ont choisi le candidat Ali Bongo qui présentait un projet qu'ils ont validé. Pour ce qui est des réclamations d'opposition, elles doivent être fondées sur la loi gabonaise. Et la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, ni pour M. Ping, ni pour M. Ali Bongo. Donc nous n'allons pas réinventer la loi parce que l'opposition le demande, monsieur.
Il y a contestation des résultats. Pour question de transparence, qu'est-ce qui est prévu pour garantir la crédibilité?
La crédibilité est garantie par les lois gabonaises. Lorsque nous nous sommes engagés à cette élection, chacun connaissait les lois gabonaises. Et donc ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit refaire les lois. Et ça, nous sommes habitués maintenant dans notre pays à ce que l'opposition perdu, écrit et elle veut revendiquer pour refaire les lois de la République. On ne refait pas les lois parce que quelqu'un a perdu une élection. Elle a été faite dans les mêmes conditions pour tous les candidats et c'est la CNAP qui proclame les résultats. C'est ce qui a été fait.
Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain Billier Nbinzier.
Et les réactions de Washington ne se sont pas fait attendre. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les événements qui se déroulent au Gabon. C'est ce qu'a déclaré le département d'État. Nous prenons note des résultats publiés par la commission électorale et nous exhortons toutes les parties à tempérer leur discours. Le département d'État encourage également les partisans des deux camps à rester calmes. Washington exhorte également toutes les forces de sécurité à respecter les droits de tous les citoyens gabonais. Retrouvez toutes les dernières nouvelles du Gabon avec les photos et vidéos d'Idriss Fall sur VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Attentat suicide en Somalie. Au moins 15 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un membre d'Al-Shabaab. Tel est le nouveau bilan annoncé par le chef de la police de Mogadiscio, la capitale.
Au Zimbabwe, la police anti-émeute patrouillait aujourd'hui dans les rues des principales villes du pays après l'appel à plusieurs mouvements de contestation lancés par des groupes d'opposants au président Robert Mugabe. On fait le point avec Bagassi Koura.
Les camions de police anti-émeute sillonnaient ce matin le centre-ville de la capitale Harare où l'appel à la grève du mouvement Tayamouka, qui veut dire « nous sommes agités », était assez peu respecté selon l'AFP. À Bulawayo, la deuxième ville du pays et bastion de l'opposition, la police a déployé des canons à eau à l'endroit d'une manifestation prévue par un autre mouvement de contestation anti-Mugabe, Bulawayo Youth Arise, qui veut dire en anglais « la jeunesse de Bulawayo se lève ». Selon le porte-parole du groupe Tayamouka, Hardlife Muzingwa, la protestation ne cessera pas tant que Robert Mugabe n'aura pas quitté le pouvoir. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe connaît un mouvement de contestation anti-Mugabe d'une rare ampleur qui résiste à la répression du régime. Les manifestants, principalement issus de la société civile, réclament le départ du président au pouvoir depuis 1980. qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du pays.
Revenons au Gabon pour signaler que l'Assemblée nationale à Libreville était en flammes ce mercredi soir après avoir été incendiée par des manifestants descendus dans la rue à l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, selon des témoins que cite l'agence France Presse. Tout le bâtiment est en train de prendre feu, a indiqué l'un de ses témoins présents sur les lieux. Un panache rouge et noir se dégageait dans la nuit au-dessus du palais Leomba, selon des journalistes de l'AFP qui se trouvaient à distance.
Au Kenya, le président de la commission d'éthique et anticorruption a démissionné. Le Parlement avait réclamé qu'il soit l'objet d'une enquête pour des conflits d'intérêts présumés portant sur l'obtention de contrats publics par une société appartenant à sa famille.
Tamsir Touré, jeune rappeur guinéen soupçonné d'un viol, a été remis en liberté provisoire pour raison médicale. Le mineur était en détention depuis novembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a démenti aujourd'hui avoir accepté un accord de cessez-le-feu par l'entremise des États-Unis avec les milices kurdes de Syrie, indiquant ne pouvoir sous aucune circonstance accepter un compromis avec une organisation terroriste. Nanit Talani.
Ce démenti intervient après l'annonce faite hier par les États-Unis sur un accord d'une trêve provisoire entre la Turquie et la Syrie. Le ministre turc des Affaires européennes, Omer Selik, a affirmé, contrairement à ce que certains porte-parole de pays étrangers disent, « Nous n'acceptons sous aucune circonstance un compromis ou un cessez-le-feu entre la Turquie et les éléments kurdes ». Pour cet homme politique, la République turque est un État souverain et légitime qui ne peut être mis sur un pied d'égalité avec une organisation terroriste, c'est-à-dire le Parti de l'Union démocratique des Kurdes de Syrie. Les forces kurdes syriennes n'ont pas encore directement réagi à l'annonce américaine. Hier, Ankara a redemandé un retrait des combattants kurdes à l'est de l'Euphrate, conformément à un engagement des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Pour la page sport, Bagassi Koura est déjà prêt. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir à tous.
J'aurais bien t'entendre. Bagassi, salut.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
C'est le dernier jour du Mercato, le marché des transferts. D'abord en Angleterre, Manchester City prête l'Ivoirien Wilfried Bony à Stoke City.
Oui, Manchester City a prêté l'attaquant international ivoirien Wilfried Bony, non désiré par le nouvel entraîneur Pep Guardiola à Stoke City pour une saison. C'est ce qu'ont annoncé les deux parties ce mercredi. Bony, âgé de 27 ans, arrivé à City pour près de 30 millions d'euros en janvier 2015 en provenance de Swansea, a disputé 46 matchs avec le club mancunien pour 10 buts. L'international ivoirien, avec 44 sélections aux côtés des éléphants, était devenu seulement le troisième choix derrière Sergio Aguero et le jeune Nigérian Kelechi Iheanacho depuis l'arrivée de l'entraîneur catalan.
Angleterre toujours, Didier Ndong à Sunderland.
Oui, le milieu de terrain gabonais de Lorient en Première Ligue française a signé un contrat de 5 ans avec Sunderland qui a déboursé 16 millions d'euros pour sa venue. Le montant de transfert le plus élevé de son histoire a annoncé mercredi le club anglais. L'international de 22 ans avec 18 sélections débarque de Lorient qu'il avait recruté pour 1 million d'euros en janvier 2015 au club tunisien de Sfax. Il a inscrit 2 buts en 46 apparitions avec le club français.
Un grand défenseur, à mon avis, David Luiz du PSG et du Brésil, en route pour Chelsea.
Un avis très partisan, hein, un accord qui a été signé donc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour le transfert du défenseur brésilien du PSG, David Luiz, qui s'est rendu mercredi à Londres selon plusieurs médias. Et selon un tweet d'un journaliste du média français RMC Sport, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de près de 40 millions d'euros, bonus compris bien sûr. Le quotidien de la capitale, le Parisien, indique de son côté sur son site internet que le Brésilien est parti dans la capitale anglaise à quelques heures de la fin du mercato.
C'est pas un 7-1 face à l'Allemagne qui va me faire changer d'avis, Bagassi. Allons en Belgique, Echiel Gilet de Monaco, prêté au Standard de Liège.
Oui, c'est en Belgique, hein, le défenseur international nigérian de Monaco, Anderson Echiel Gilet, âgé de 28 ans, a été prêté au Standard, comme vous dites, pour une saison avec option d'achat. C'est ce qu'on a appris ce mercredi auprès du club de la Principauté Monaco.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, aux premières escales de Gabon.
Libreville s'est enflammée, comme beaucoup s'y attendaient. Dès la proclamation, les résultats de la présidentielle à un tour de samedi, Ali Bongo Ondimba a obtenu plus de 49% des voix, suivi de très près par l'opposant Jean Ping, qui obtient plus de 48%. Les 9 autres candidats, ensemble, ont obtenu moins de 2% des suffrages. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial au Gabon.
Dans plusieurs quartiers de Libreville, la colère s'est exprimée dans les rues. Des jeunes manifestants ont tenté d'ériger des barricades. Les forces de l'ordre sont intervenues avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 2 août. Assis à côté de René Abougué Ella, le président de la CENAP, le ministre de l'Intérieur a lu les résultats province par province, le vote des Gabonais à l'étranger, puis les résultats globaux.
Au total, concernant le Gabon et l'étranger, inscrits 627 805, votants 373 310, taux de participation 59,46%. Bongo Ondimba Ali, 177 722 voix, soit 49,80%. Ping Jean, 172 128 voix, soit 48,23%. Est élu Bongo Ondimba Ali, avec 49,80%.
Opposition et majorité présidentielle ont eu un blocage. La province du Haut-Togoué, qui a Franceville comme capitale, où les bongos sont originaires. Résultat, selon le ministre de l'Intérieur.
Province du Haut-Togoué, inscrits sont 11 714, votants sont 11 667, taux de participation 99,93%. Bongo Ondimba Ali, 68 064, soit 95,46%.
Les 8 membres de la CENAP sont réunis depuis hier nuit à huis clos sur ce sujet. Ce matin, après 3 interruptions, 2 commissaires de l'opposition à la plénière de la CENAP ont quitté la salle, dont Paul-Marie Gogno.
Nous n'avons plus le droit de mentir au peuple gabonais. Nous n'avons plus le droit de mentir à l'opinion nationale et internationale. Ça suffit maintenant. Et le peuple gabonais, ici, saura qu'à la CENAP, il y a des gens qui veulent lui voler sa victoire et nous n'irons pas jusque-là.
Il claque la porte, mais les vrais représentants de l'opposition, membres du bureau de la CENAP, sont restés dans la salle. Jean-Marie Ndouma, le second commissaire de l'opposition à la plénière de la CENAP.
Ils sont restés, ça je ne sais pas. Nous ne savons pas pourquoi ils sont restés. Tout à l'heure, devant le ministre de l'Intérieur, vous n'allez pas partir, il vous invitera de pouvoir donner le résultat.
En réalité, face au blocage, les 8 membres de la CENAP ont procédé à un vote secret sur le Haut-Togoué. Paul-Marie Mukaga, vice-président de la CENAP et membre de l'opposition, a assuré devant la presse que les membres ont voté 4 pour, 3 abstentions et un vote contre. Ainsi, officiellement, Ali Bongo Ondimba est réélu, mais la révolte des jeunes continue à Libreville et Port-Gentil, la rebelle, s'est déjà enflammée. Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a donc été réélu pour un deuxième septennat. L'opposition conteste les résultats de la province du Haut-Ogoué, où M. Bongo obtiendrait 95,46% des voix, avec une participation, écoutez bien, de 99,93%. Pour 71 714 inscrits. Pour une analyse, John Lendon a joint au Canada Maïs Mouissi, promoteur du site maïsmouissi.com, qui compilait les résultats province par province depuis samedi.
Je constate que les résultats me semblent totalement décorrélés de la réalité du vote des Gabonais. La province du Haut-Togoué, province d'origine du président de la République, a eu un taux de participation qui avoisine 100%. Ça voudrait dire que dans cette province, entre le moment de l'inscription sur les listes électorales et le moment du scrutin, il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé hospitalisé le jour du scrutin. il n'y a eu aucune personne en déplacement en dehors de la province et qui devait voter. Les personnes qui étaient hospitalisées sont certainement sorties de l'hôpital pour aller voter. Voyez-vous, ça me paraît tellement atypique que je ne crois pas en la réalité des chiffres de la province du Haut-Togo.
Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Jean-Ping rejette ces résultats et les jeunes sont descendus dans la rue.
Ce qu'il faut craindre, c'est que aujourd'hui, de nombreux Gabonais, je pense d'ailleurs la majorité des Gabonais, pensent qu'Ali Bongo n'a pas remporté les élections présidentielles. À ce titre, on peut penser que des gens, comme c'est déjà le cas à Libreville, vont descendre dans la rue pour essayer de revendiquer leur victoire. Malheureusement, nous constatons que le régime d'Ali Bongo a utilisé la force, puisqu'au moment où je parle, je crois que Jinping a déjà annoncé qu'il y aurait eu 3 morts dans les rues de Libreville.
Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont demandé à ce que les votes soient comptés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui peut régler la situation?
Cette demande me relève du bon sens. Lorsqu'on a dans une localité, dans une province tout entière, un taux de participation de l'ordre de 100%, cette province a une dizaine de départements. Ça voudrait dire que dans 10 départements, il y a environ 100% des inscrits qui sont allés voter. Je pense quand même qu'il faut s'arrêter et regarder bureau de vote par bureau de vote. C'est le minimum que l'on puisse faire pour garantir la sérénité à l'issue de ce scrutin. Parce qu'on se dirige manifestement vers de la violence post-électorale. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la sous-région dans un contexte où les pays voisins, notamment le Cameroun, est déjà tourmenté par des risques terroristes dans le Nord. On ne peut pas prendre le risque de déstabiliser la sous-région pour des raisons politiques parce qu'un leader n'a pas gagné convenablement les élections et essaye éventuellement de s'imposer en modifiant les chiffres issus des urnes.
L'expert Maïs Mouissi, promoteur du site maïsmouissi.com.
Dans Washington Forum, direction le Gabon, où la Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23% face à son rival Jinping. Ce jeudi, on analyse le processus électoral et les résultats de ce vote à un tour. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant Ali Bongo? Quel futur pour l'opposition gabonaise? Quelles conséquences immédiates et à long terme pour le pays? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Et nous partons au Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution nationale, doit avoir un mémorial. C'est en tout cas le souhait de nombreux Burkinabés. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
Au temps fort de l'insurrection, un seul nom revenait comme un leitmotiv, morceau choisi.
Le pays nous appartient! Nous sommes des enfants de Thomas Sankara.
Thomas Sankara, je ne l'ai pas connu physiquement, mais ce que moi je retiens de Thomas Sankara, c'est que j'entends parler seulement qu'il a une grande personnalité.
Voilà ce qui justifie la construction d'un mémorial Thomas Sankara, a dit le chercheur Luc Damiba.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas accès à toutes les informations, à tout le discours politique, même social et pédagogique de Thomas Sankara. Donc c'est de remettre tout ça à la disposition du grand public. Et c'est aussi pour nous un espace touristique sur 5 touristes qui viennent au Burkina, 2 cherchent à voir les vestiges de la révolution ou aller sur la tombe de Sankara.
Pour que le mémorial porte tout son symbole, les initiateurs veulent l'implanter sur les lieux même où Thomas Sankara a été assassiné en 1987. Quelle partition va jouer le gouvernement burkinabé dans ce projet? La réponse avec Tayour Bari, le ministre de la Culture.
La contribution du gouvernement va se manifester autour de la mise à disposition du site, le Conseil de l'Entente, et bien entendu avec une contribution financière conséquente.
Ce projet vient au moment où des doutes planent sur la tombe qui est supposée être celle de Thomas Sankara. Qu'à cela ne tienne, affirme Fidel Touy, ami d'enfance et ministre sous la Révolution.
De tout temps, avant même qu'on cherche à savoir où est la tombe de Thomas Sankara, nous avons toujours souhaité qu'il y ait un mémorial. Je veux surtout que l'initiative se poursuive, l'initiative prenne et que nous aboutissions effectivement à la réalisation concrète d'un mémorial. L'homme mérite un mémorial pour le Burkina, pour l'Afrique et voire même pour le monde.
C'est le même accueil favorable chez Maître Benewende Sankara, avocat du dossier Thomas Sankara et président du parti d'obédience sankariste.
Le combat de notre peuple et surtout la mobilisation populaire à travers des luttes multiformes, ça permet aujourd'hui à réhabiliter le président Thomas Sankara et lui dédier un mausolée, un mémorial, c'est pour nous source de fierté légitime et pour nous c'est une victoire d'étape et c'est aussi le couronnement de tant d'efforts de tous les progressistes, de tous les sankaristes du monde entier.
Ce projet de mémorial a comme président d'honneur Jerry John Rawlings, ancien chef d'État du Ghana et ami de Thomas Sankara. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016. Importante journée pour le républicain Donald Trump qui effectue un voyage au Mexique avant son discours sur l'immigration. Timothée Donangmaï, c'est une invitation du Mexique?
Tout à fait. Le candidat républicain répond donc à une invitation que le président mexicain Enrique Peña Nieto lui a envoyée, ainsi qu'à son adversaire démocrate, Mme Hillary Clinton, la semaine dernière. C'est aller-retour au Mexique, le premier séjour de Donald Trump à l'étranger en tant que candidat, est un voyage à risque compte tenu de ses propos passés au sujet de ce pays et de ses habitants. Le milliardaire s'était en effet engagé à expulser les 11 millions de sans-papiers vivant ici aux États-Unis, parmi lesquels de nombreux Mexicains. Il avait aussi dit qu'il érigerait un mur le long des 3200 kilomètres de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump se propose par ailleurs de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, pour le rendre plus favorable aux États-Unis. Nous ne l'aimons pas et nous rejetons sa visite, a déclaré à CNN l'ancien président mexicain Vicente Fox, ajoutant « Nous les Mexicains avons notre dignité et nous rejetons son discours haineux ». Le président Peña Nieto, lui, semble être venu à de meilleurs sentiments après avoir comparé les discours du candidat républicain à ceux de dictateurs comme Adolf Hitler ou Mussolini. Le dialogue avec Trump entre dans les efforts de protection des intérêts du Mexique et des Mexicains, où qu'ils soient, a-t-il déclaré mardi. Ce déplacement donne au candidat républicain l'occasion de projeter une image présidentielle. C'est un voyage qui prouve que Donald Trump sera un leader décisif s'il est élu, a déclaré son colistier Mike Pence.
C'est une journée très chargée pour Trump. Timothée Donangmaï, il doit prononcer son discours très attendu aujourd'hui sur l'immigration.
Et oui, Gabi, en plus de la situation des 11 millions de sans-papiers vivant ici aux États-Unis et que le candidat républicain a promis par le passé d'expulser, Donald Trump s'est aussi engagé, s'il est élu, à faire annuler les mesures prises par le président Obama pour accorder une protection temporaire à certains immigrés en situation illégale, notamment ceux dont les enfants sont citoyens américains ou résidents permanents. Dans une interview l'année dernière sur la chaîne NBC, le candidat républicain avait fait savoir qu'il veut supprimer le 14e amendement de la Constitution qui accorde à tout enfant né aux États-Unis la nationalité américaine, même quand ses parents sont en situation irrégulière. Selon Donald Trump, cette disposition est, et je cite, « le plus puissant aimant pour l'immigration illégale ». Les Américains, Gabi, attendent de savoir si la position de Trump a évolué sur ces questions ou si elle est restée la même.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. La partie technique a été assurée par Lionel Gaïma et Nelson Lopez. Présentation Morgane Guiriac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, 1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.